Bon premier jour de la fête des pains sans levain. Nous sommes entrés dans le début de ce cycle annuel des formidables fêtes de Dieu qui nous aident à comprendre son plan de salut pour toute l'humanité. Et c'est tellement encourageant. Et d'une année à l'autre, on dirait que ça devient plus intense et Dieu nous donne, bien sûr, de comprendre davantage si on a à cœur de lui obéir puis d'avancer. Dieu est avec nous davantage puis il se manifeste davantage aussi. Le titre de mon message aujourd'hui, très simple, trois mots, mais c'est soudé ensemble, confiance et obéissance. Confiance et obéissance. Il s'agit là de deux qualités, ou si vous voulez, de deux caractéristiques qui vont ensemble, en fait, qui sont indissociables. Et comme on va le voir, ça identifie clairement qui sont les enfants de Dieu. Et Dieu veut que nous développions régulièrement ces deux traits de caractère, tout au long de notre cheminement chrétien. Tout au long de notre cheminement chrétien, jusqu'au moment du retour de Christ, à ce jour merveilleux où la Bible dit qu'à ce moment-là, si on est encore en train de se perfectionner, Dieu, parce qu'on ne sera pas rendu au niveau total de perfectionnement, Dieu va nous rendre parfaits le jour de Jésus-Christ, comme c'est marqué dans les Écritures. Mais il faudrait être en train encore de vivre dans l'esprit de la fête des pains sans levain. Ça, ça doit être avec nous autres continuellement. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. L'obéissance, on sait ce que c'est de mettre en pratique les lois de Dieu qu'il nous a révélées quand il nous a appelés. On ne connaissait pas vraiment les lois de Dieu avant qu'il nous appelle. On ne connaissait pas vraiment non plus le vrai Dieu. Même si certains d'entre nous étaient religieux dans différentes organisations, on ne connaissait pas encore le vrai Dieu. Le Dieu qu'on adorait ou qu'on pensait adorer, c'était pas le Dieu de la création réellement. C'était pas le Dieu du sabbat. Ce n'était pas le Dieu de la Pâque. Ce n'était pas le Dieu de la fête des pains sans levain, ni de la fête des tabernacles. Dieu nous a tout donné ça. Il nous a tout montré ces choses-là, révélé ces choses-là. Pas parce qu'on était plus sages. Non, parce qu'il a bien voulu, dans sa miséricorde, nous appeler, puis nous révéler son plan merveilleux. Alors nous, quand on a vu ça, on avait un choix. Ou bien je marche dans les voies de Dieu, ou je continue à vivre autrement. Et on a décidé, ça a été votre cas aussi, parce que vous êtes là, de marcher dans les voies de Dieu. Maintenant, je définis confiance. On vient de parler d'obéissance un peu. Je définis confiance. La confiance, si on résume le plus simplement possible, c'est se fier à quelqu'un. C'est ça, la confiance, se fier à quelqu'un avec assurance. Se fier à quelqu'un avec assurance. Si, par exemple, vous avez des travaux importants à faire exécuter sur votre propriété, avant de donner le contrat ou le travail à une compagnie, une firme quelconque, vous allez prendre des informations, vous allez prendre des références sur les différentes firmes que vous pourriez engager pour faire le travail, pour être certain de ne pas manquer votre coût et de ne pas être exploité non plus. Alors, vous allez faire des vérifications et vous allez voir à qui vous allez accorder votre confiance pour avoir l'assurance que les travaux soient bien faits et que ça atteigne son but. Alors, la confiance, c'est de se fier à quelqu'un avec assurance. C'est de compter sur quelqu'un aussi avec assurance, en sachant que cette personne-là va livrer la marchandise. C'est vrai sur le plan physique, humain, mais avec Dieu, c'est encore plus vrai. Et plus enthousiasmant aussi, parce que celui qui vous a appelé est capable de vous rendre à terme, vous et moi, si nous sommes fidèles, si on continue à lui obéir, si on a cette persévérance-là, si on a confiance en lui, si on lui obéit. Confiance, obéissance. Quand Dieu nous a appelés, comme je mentionnais, il nous a révélé certaines vérités. Mais quand il nous a révélé ces vérités-là, vous et moi, nous avions le choix. Nous avions un choix à faire à ce moment-là. Ou bien on commençait à pratiquer ce qu'il nous montrait, qui était différent de ce qu'on connaissait avant, ou bien on rejetait cette offre-là, pour ainsi dire, puis on continuait à vivre comme avant. C'est ça le choix qu'on a eu à faire. On avait le choix, en d'autres termes, ça rejoint le thème que je veux traiter aujourd'hui, on avait le choix entre faire confiance à Dieu, lui obéir ou non. Et Dieu a respecté ce choix-là. Dieu en appelle beaucoup. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus, la Bible dit. Hein? Dieu appelle un bon nombre de personnes, mais ce n'est pas tous qui décident de faire le pas, de lui faire entièrement confiance, au point de dire, moi, je change ma vie pour plaire à ce grand Dieu qui est en train de se révéler à moi. Ceux-là auront leur chance plus tard, mais peut-être que les circonstances seront plus difficiles que ça a été pour ceux que Dieu appelle maintenant. Mais on avait un choix à faire. On l'a fait, le choix. Je dis on l'a fait, le choix, parce que si vous êtes ici, si nous sommes ici, c'est qu'on a choisi de lui faire confiance, on a choisi de se fier à lui. Et ça nous a automatiquement conduit à nous appliquer à lui obéir, à vivre selon ses lois. Et chaque année où on revit la fête des pains sans levain, c'est qu'on se rappelle cette obligation-là qu'on a et qu'on a signée dans le contrat de notre baptême, dans le sang du Christ, de marcher dans ses voies et de nous purifier jusqu'au bout. On n'en a pas fini encore. Comme je disais tantôt, on ne sera pas encore parfait, même le jour de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'à la toute fin de la Bible, dans Apocalypse 22, quand vous allez à la fin, Dieu parle en termes assez précis, assez clairs. Il dit que celui qui se souille encore. Que celui qui se purifie encore, par exemple. Et là, Dieu va faire une différence entre les gens à ce moment-là. Alors, on a voulu obéir à ses lois, puis on veut encore. Puis on va continuer à le faire jusqu'au retour de Christ. C'est ce à quoi on s'est engagé. Et plus on l'a fait, cette démarche-là de vivre comme le Christ a vécu, d'observer les fêtes qu'il a observées, d'apprendre à réagir comme lui réagissait, plus on le fait, plus sa puissance nous a permis d'avancer. C'est ça qui fait le dynamisme là, de la démarche chrétienne. Et quand ça s'est passé, plus notre confiance en lui a augmenté. Et c'est intéressant parce qu'on l'a vu hier soir quand on a parlé ensemble dans la soirée, au cours de la soirée mémorable, de ce que Dieu avait fait pour un et pour l'autre, lorsqu'il les a appelés, le chemin que vous avez fait, et ainsi de suite. Plus vous avez découvert le vrai Dieu, plus vous avez vu qu'il intervenait dans votre vie, plus vous avez eu confiance et plus vous vouliez aller plus loin. Et c'est ça. Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Et plus on a à cœur de le faire, plus Dieu nous donne sa puissance pour qu'on aille plus loin. Puis en faisant ça, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a développé ce que la Bible appelle de marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Ce n'était plus un être indépendant de notre existence ou de nos préoccupations, mais c'était quelqu'un, et c'est quelqu'un qui est devenu au centre de nos préoccupations, au centre de notre vie. C'est le but de notre vie d'aller vers lui, de faire sa volonté. Sa volonté, il nous la montre dans les Écritures. Et il s'est manifesté de plus en plus dans les événements de chaque jour de notre vie. Et on en parlait encore hier soir. Si on porte attention à ce que Dieu fait, on le voit intervenir même dans les petites choses de notre vie, dans les différentes journées. Quand on lui parle, quand on lui demande, Dieu répond. Mais il faut regarder. Il faut avoir l'œil et le cœur ouvert, je dirais, aux interventions de Dieu. Des fois, on demande des choses et la réponse, comme la réponse n'est pas celle qu'on attend, on pense qu'il ne nous a pas répondu. Mais parfois, sa réponse, c'est non, ou parfois, sa réponse, c'est pas tout de suite, ou parfois, sa réponse, c'est pas comme vous avez pensé et pas au moment où vous avez pensé. Mais lui n'abandonne jamais ses enfants. Ça, il ne faut jamais oublier ça. M. Appartient nous le disait souvent, c'était tellement encourageant. Dieu ne vous abandonne jamais. Si vous n'abandonnez pas Dieu, Dieu ne vous abandonnera jamais, quelles que soient les circonstances que vous allez devoir traverser. Et Dieu va le faire de plus en plus. Il va se manifester de plus en plus dans vos vies. Et c'est fascinant, c'est tellement encourageant. La semaine dernière, j'ai procédé à deux baptêmes. Ça a été des circonstances extraordinaires, comme vous savez. Et je sais par expérience que dans les deux cas, on a demandé des choses à Dieu, des choses très précises, des fois que je ne savais pas que la personne avait demandé, et que ensuite j'ai apporté comme réponse ou que j'ai fait, mais ça ne venait pas de moi. Dieu avait répondu à la personne qui allait être baptisée. Et Dieu était intervenu à un moment donné dans l'autre cas pour changer les circonstances afin que le baptême devienne possible. au moment où il devait se faire. Mais ça, ni la personne ni moi, on savait. Tout ça, le grand patron a orchestré ça. Et plus on est proche de Dieu, plus on devient sensible à ces choses-là, et puis plus ça nous encourage. Parce que ce qu'il a fait, il va continuer de le faire. Si nous, on continue de faire ce qu'on a à faire, il va se manifester de plus en plus. Et on le voit dans l'Église maintenant, au temps où nous sommes rendus, parce qu'on approche du temps de la fin, Dieu ne demande pas mieux que de se manifester de plus en plus dans la vie de ses fidèles serviteurs. Et il va le faire. Et vous savez qu'à un moment donné, dans l'histoire prochaine, il va le faire de façon magistrale, quand il va prendre sous son aile, dans sa protection puissante, ceux qui le servent. Ce sera des choses extraordinaires qu'on n'a jamais vécues, mais ce sera encore la manifestation de sa présence, mais là, d'une façon tellement éclatante pour tous ses enfants en même temps. Regardez l'exemple d'Abraham. Allez dans Genèse chapitre 15, s'il vous plaît, dès le début de la Bible. Genèse chapitre 15. Abraham, c'est le père dans la foi, c'est le père des croyants. Genèse chapitre 15. Dieu a travaillé avec lui de façon spéciale, puis Abraham a répondu comme un chrétien doit répondre à son appel. Lui a fait le bon choix, comme vous avez fait le bon choix en disant « je veux obéir à Dieu ». Quand Dieu a appelé Abraham, Abraham n'avait pas d'enfant, puis il pensait que son héritage irait à Éliezer de Damas, quelqu'un qui était dans sa maison. Et Dieu a dit « non, non, c'est pas par lui que tu seras béni ou que ton héritage va être transmis à l'autre génération, c'est par le fils qui va naître de tes entrailles. » Il a dit ça à Abraham. Abraham était avancé en âge, je vous rappelle. Alors, ça a été quoi sa réaction? Autrement dit, quand Dieu l'a appelé, quand Dieu s'est manifesté là-dedans, et quand Dieu lui a fait ces promesses-là, des promesses semblables à celles qu'il nous fait quand il nous appelle, qu'il nous dit « je vais vous emmener au bout, je vais m'occuper de vous jusqu'au bout », ça a été quoi sa réaction? Ça a été quoi son choix? J'aime ça le mettre dans ces termes-là parce que c'est un encouragement pour vous et c'est un encouragement pour moi. Le choix qu'Abraham a fait, c'est le choix que vous avez fait parce que vous êtes ici et que vous voulez continuer. Je sais, je vous connais tous personnellement. Je connais votre cœur, pas comme Dieu connaît votre cœur, mais je sais le zèle que vous avez pour Dieu. Je sais la reconnaissance que vous avez d'avoir été appelé puis votre désir d'aller jusqu'au bout. Alors, vous avez fait le même choix qu'Abraham a fait. Quand Dieu a décidé de vous appeler personnellement, vous avez fait ce choix-là. Regardez Genèse 15, le verset 6. Comment il a réagi Abraham? Abraham eut confiance. Ben oui, le terme est là, dès le début. Mon sermon, c'est confiance et obéissance. Abraham avait le choix. Est-ce que je vais croire ce que cet être-là me dit ou si je continue ma vie comme avant? Abraham a eu confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Et regardez juste avant, c'est fascinant comment Dieu travaille avec nous autres. Il nous fait voir sa majesté ou il nous fait voir la grandeur de la création pour qu'on réalise que nous, là, on est à un autre niveau de compréhension, que Dieu est tellement plus grand que ça, qu'il dépasse toute chose, qu'on ne pourra jamais le saisir dans sa totalité ou dans son entièreté. On n'aura pas assez de l'éternité pour le découvrir ou pour apprendre à le connaître. Mais pour nous encourager, des fois, il dit « regarde la création ». Des fois, on va regarder un nid d'oiseaux, on va regarder des oiseaux-mouches qui s'affairent à bâtir leur nid, comme ça a été le cas chez les bergers. Il y avait des oiseaux-mouches dans le petit arbre juste en avant de leur maison il y a 2 ans. Et puis, ils ont surveillé la nichée se développer et tout ça. C'est des merveilles de la création. C'est des choses que les êtres humains ne peuvent pas faire, sinon les admirer, puis dire « il y a quelqu'un derrière ça qui a fait ce plan aussi merveilleux ». Regardez ce que Dieu a fait avec Abraham. Ici, on peut voir au verset 4. « Alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, en parlant de Éliezer de Damas. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Alors Dieu, il fait une promesse ici. Comme Dieu vous a fait à vous puis à moi une promesse. Il dit « Si vous me faites confiance, si vous m'obéissez, je vais vous amener à la vie éternelle. » Je vais vous transformer, je vais vous pardonner en cours de route, je vais vous aider. Promesse. Mais regardez ce qu'il fait avec Abraham ici. Et après l'avoir conduit dehors, excusez, verset 5, Dieu dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Alors, ce que Dieu fait avec Abraham, dans le fond, il dit, « Regarde, il l'amène dehors. » Il dit, « Regarde en haut. » Dans le fond, c'est moi qui ai tout fait ça. C'est pas toi, Abraham, qui a fait ça. Regarde. Là, tu vas avoir des enfants, autant comme il y a d'étoiles, pour ainsi dire. Et ça montrait la majesté de Dieu. Ça sous-entendait que Dieu avait la puissance d'accomplir ce qu'il lui promettait. Et il l'a vu par la suite. Abraham l'a vu par la suite. Pourquoi? Parce qu'Abraham a eu confiance, comme on voit ici. Et Abraham s'est appliqué à lui obéir, même si Abraham n'était pas parfait. Un autre exemple, allez dans Deux Rois. Le deuxième livre des Rois, au chapitre 18. Deuxième livre des Rois, chapitre 18. Un autre exemple de quelqu'un qui a choisi, comme vous, de mettre sa confiance en Dieu et qui s'est appliqué à lui obéir. C'est un des rois de Juda, Ézéchias. Résultat, waouh, formidable. Dieu l'a béni et Dieu a été avec lui. On peut le mettre dans d'autres termes. Comme Ézéchias a marché avec Dieu, bien Dieu a marché avec lui. Il était dans ce qu'il faisait. Deux Rois, chapitre 18, et le verset, on va commencer au verset 1, de 1 à 3. La troisième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Achas, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abie, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Pourquoi il a fait ce qui était droit? Parce qu'il avait confiance à l'Éternel. Il a mis sa confiance en lui. D'accord? Même chose. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Entièrement, comme avait fait David son père. En fait, David, c'était pas son père immédiat, mais son ancêtre, si vous voulez. Regardez le verset 5 maintenant. On va se rendre au verset 5. Ce roi-là mit sa confiance en l'Éternel. Voilà la confiance que je vous parle. Le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Non seulement il a mis sa confiance, mais sa confiance-là s'est développée au point qu'il s'est attaché. Regardez ce qu'il dit après au verset 6. Il fut attaché à l'Éternel. Quand on s'attache à quelqu'un, c'est parce qu'on l'aime, on tient à cette personne-là, on ne veut plus s'en éloigner. Il s'est attaché à l'Éternel. Il ne se détourna point de lui et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. Alors, ce même Dieu fantastique-là agit aujourd'hui de la même façon avec ceux qui lui font confiance, malgré les circonstances, malgré les difficultés. Ceux qui se tournent vers lui pour demander son aide dans toutes les circonstances et demander sa miséricorde lorsqu'on se trompe ou qu'on manque notre coup. Confiance et obéissance. Deux caractéristiques indissociables. Vous savez, le Dieu qu'on sert, c'est le personnage le plus fidèle qui peut exister, le plus digne de confiance qui peut exister. Il n'y en a pas d'autre qui est plus digne de confiance que lui. Alors, c'est à lui qu'on se confie. C'est ce qu'Ézéchias a fait. Allez à Jérémie, chapitre 17. Jérémie, chapitre 17. Vous savez, il y a une façon par laquelle on démontre notre confiance en Dieu. Et ça explique encore le thème de mon message. Par nos actions. Par nos actions d'obéissance. Ça prouve qu'on sait que Dieu est réel et ça démontre par nos actions notre confiance en lui. C'est ce que Ézéchias a fait. Jérémie 17, on va lire le verset 5 à 8. Ce n'est pas dans la chair qu'on doit mettre notre confiance, ni dans les organisations humaines, ni dans les êtres humains. Regardez ce que Dieu dit à ce sujet-là. Verset 5. « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. » Est-ce qu'on peut se fier à l'être humain en tant qu'être humain pour connaître la vérité, pour être capable d'avoir l'aide dont on a besoin et tout ça? On parle de d'autres choses ici. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, c'est-à-dire que c'est pas le chemin de la solution, qui prend la chair pour appui. que ce soit les richesses physiques, que ce soit un sentiment de sécurité parce qu'on connaît quelqu'un ou qu'on est dans telle organisation humaine physique ou dans tel parti politique ou des choses comme ça, quand les gens suivent ces choses-là en pensant être à l'abri parce qu'ils connaissent des gens placés en haut lieu ou tout ça, non? Le secours vient pas de là. Le vrai secours vient de Dieu. Il dit, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Il met ses valeurs ailleurs. Si on met toutes nos valeurs dans Dieu, Dieu va prendre soin de nous totalement. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il passe à côté du bonheur réel, de la satisfaction de vivre, de la paix du Christ qui dépasse toute compréhension humaine. C'est ça, la paix de Christ. Ça dépasse la logique humaine. Il ne voit point arriver le bonheur, celui qui n'est pas avec Dieu. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Mais regardez le verset 7. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » C'est de lui que viennent toutes les solutions. C'est de lui que viennent toutes les solutions à nos situations. C'est de lui que vient la miséricorde, l'aide pour changer. C'est de lui que vient la réussite pour nous dans nos vies de la réalisation de la fête des pains sans levain, c'est-à-dire la purification. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il est, il est fixé directement sur le sept. On a lu ça à la Pâque. Ses racines vont là où la source d'eau est. Ça représente le Saint-Esprit. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Il est capable de supporter des choses contraires, des choses difficiles. Et son feuillage reste vert. C'est drôle, quand je pense à ça, je pense à M. Appartient. Avancé en âge, le feuillage est encore vert, le cœur est encore ardent. La même conviction qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, depuis qu'il était dans l'Église, depuis qu'il avait signé l'alliance avec Dieu dans le sang de Christ, et qui a toujours respecté fidèlement, même dans son âge avancé. On le voyait verdoyant, pour ainsi dire, spirituellement, même si son corps commençait à faire défaut. Quand je lis ce passage-là, ça me fait penser à lui. Verset 7, « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, dont l'Éternel est l'espérance. » Pourquoi? Parce que Dieu agit envers celui qui met sa confiance en lui. Ce n'est pas une question théorique. Dieu agit, il réagit, il répond, il intervient. Rappelez-vous, ceux qui ont connu M. Armstrong, j'ai eu le privilège de le connaître. M. Armstrong avait une solide confiance en Dieu. Et ça, tout au long de sa vie, c'était ça. Confiance et obéissance, c'est l'exemple qu'il nous a donné, dans le fond, comme M. Appartient. Et M. Armstrong a tenu dans ce sens-là, même lorsqu'il a été obligé, dans certaines situations, de marcher, pour ainsi dire, seul. Parce que des fois, il a été attaqué, il a été discrédité, plusieurs l'ont abandonné, il a été même mis à mal par certains membres de sa famille et tout ça, mais il a tenu bon. Même il avait dit, je me rappelle, même si je dois être seul, je vais terminer l'œuvre que Dieu m'a confiée. C'était clair dans son cœur, c'était clair dans son esprit. Pas parce que les choses étaient faciles pour lui, là, mais le chemin était tracé, il avait pris la décision. Et il savait que par la force de Dieu, il pouvait le faire. Il avait cette responsabilité-là, puis il dit, je vais l'accomplir. Comme vous et moi, c'est ce qu'on doit dire à Dieu. Je vais l'accomplir. Mais Dieu, je suis pas capable. Je suis absolument incapable de l'accomplir. Mais je connais quelqu'un, Dieu, qui peut m'aider. Parce que tu as dit que tu n'abandonnais jamais celui qui se tourne vers toi, qui se repent et qui demande ton aide. Ça, je peux compter là-dessus. Et ça, je sais que Dieu entend ce genre de prière-là et aime ce genre de prière-là aussi. Alors, M. Armstrong avait cette confiance-là et cette obéissance-là, ces deux caractéristiques. Vous avez la même chose dans le cas du roi David. Écoutez, le roi David a vécu des circonstances plus que pénibles. Quand le roi David a été oint roi sur Israël, il n'a pas pris le poste tout de suite. Vous connaissez l'histoire de la Bible, il n'a pas pris le poste tout de suite. Saül est encore roi sur Israël à ce moment-là. Non seulement ça, mais Saül a voulu le tuer. David a été en fuite pendant, je pense, une dizaine d'années. Et il était menacé de mort régulièrement. David aurait pu dire, ça se peut pas. Le Dieu Tout-Puissant m'a oint pour être le futur roi sur Israël. Puis moi, je me retrouve dans le désert avec des brigands pour survivre, pour sauver ma peau jour après jour, alors que c'est le même roi que je dois remplacer qui est encore sur le trône et qui veut ma mort pendant une dizaine d'années. On parle de test, là. On parle de test. Heureusement, ces mêmes tests-là ne sont pas imposés à tout le monde dans l'Église, mais ça a duré une dizaine d'années. Il a attendu que les choses entrent dans l'ordre selon ce que Dieu avait planifié, lui. Et même lui, quand il a eu l'occasion de tuer même Saül, vous vous rappelez de l'histoire, il était Saül dormait dans une caverne et il était tout prêt. Puis c'est les gens qui étaient avec David ont dit, « Tue-le, tu vois, c'est Dieu qui le met dans tes mains, tue-le. » David, qu'est-ce qu'il a répondu? « Je ne toucherai pas au oint de l'Éternel. » C'est à Dieu à régler le reste de la question. Il s'est en allé. Mais Dieu l'a béni après. Mais ça demandait toute une confiance, là. Et ça demandait de continuer à obéir, ne pas transgresser les commandements, ne pas tuer, ne pas convoiter le poste qui était le sien. Il aurait pu dire, je peux le désirer, ce poste-là, c'est Dieu qui me l'a donné. Là, il l'aurait convoité parce qu'il l'aurait eu à sa façon, en son temps, à lui. Et des fois, on force les choses pour avoir les choses à notre façon puis à notre temps, nous autres. Mais Dieu nous montre d'autres choses. Il dit, laissez-moi agir, mettez-moi ça dans les mains, faites par contre ce que vous avez à faire, mais laissez-moi le reste. Alors, David aussi a donné l'exemple dans ce sens-là. À l'œil humain, c'était pas logique. Mais avec l'Esprit de Dieu, c'est la logique fantastique du Dieu Tout-Puissant, qui a sa façon à lui de faire les choses. Marcher avec Dieu, là, ça implique de l'impliquer dans notre vie, dans tous les aspects de notre vie. Plus on avance dans le temps, dans la conversion, plus on réalise que Dieu doit être dans tout ce qu'on fait et qu'on doit lui remettre entre les mains tous les éléments de notre vie. Les petites choses comme les grandes choses. Parce qu'il nous répond même pour les petites choses qui n'ont pas d'importance pour les autres autour et qui n'ont pas d'importance dans l'histoire du monde. Mais c'est un bon papa et il aime à nous encourager. Mais il veut qu'on apprenne à lui demander. Et il aime à répondre. Écoutez, en tant que parent, vous qui avez des enfants, est-ce qu'on n'aime pas ça quand nos enfants nous demandent quelque chose, qu'on voit qu'on peut les aider? Mais lui, il est encore mieux que nous autres. C'est un père parfait. Alors, il ne demande pas mieux que de faire ça. Il attend les circonstances pour nous aider. Il faut lui demander, un, de faire sa volonté, puis deux, de nous aider dans les choses qu'on doit apprendre, qu'on doit faire. Je me rappelle, on était allé il y a plusieurs années à Pasadena, une rencontre ministérielle dans le temps, et il y avait une dame âgée, toute petite madame, vraiment sympathique, et le lendemain du sabbat, le dimanche, on allait manger avec elle dans un hôtel, c'était un brunch le dimanche midi. Puis c'est elle qui nous emmenait dans sa voiture. Ah, elle était tout petite, on la voyait presque pas dans l'arrière, toute petite, toute mignonne, puis elle était vraiment âgée. Hein. Et puis on était allé dans le stationnement de l'hôtel, c'était un stationnement à étage, puis c'était rempli. Puis là, j'ai vu que cette petite madame-là, elle marchait vraiment avec Dieu, que Dieu était important pour elle là, tous les instants. Parce que bien, on était des membres d'église, c'était pas devant des gens de l'extérieur, mais on était trois ou quatre dans le véhicule. Et puis, à un moment donné, elle dit, « Dieu, là, j'ai besoin d'une place de stationnement, j'amène ce monde-là, faire un brunch, puis il n'y a pas de place ici, puis il faut que je les amène. Aide-moi à trouver une place. » Elle en a eu une après. Il y a une place qui s'est libérée, puis elle a pu se stationner. Voyez-vous, mais le cœur était là. Elle impliquait Dieu dans sa vie, dans toutes sortes de choses, dans les petites choses comme dans les grandes. Puis Dieu aime ça qu'on apprenne à faire ça. Ça, on marche avec lui, et lui, dans ce temps-là, il marche avec nous autres. En tant que père, Dieu aime profondément vous voir mettre votre confiance en lui. Ça revient à ça encore. Quand j'y demande pour les petites choses de ma vie comme pour les plus grandes, c'est que je mets ma confiance en lui, je le sais qu'il va me répondre. Pourquoi? Parce qu'il m'a toujours répondu. À un moment donné, je peux dire ça, il m'a toujours répondu. Quand j'ai fait assez d'expérience avec lui, là, je sais qu'il me répond toujours. Pas toujours selon ce que moi je désire, mais il me répond toujours ce qui est le mieux pour moi. Voyez-vous, si nous sommes baptisés au point de départ, on sait qu'on lui appartient. Si nous sommes baptisés, on lui a donné notre vie, c'est ça. On l'a vu à la cérémonie du baptême, le Christ a payé pour racheter la vie de chacun des appelés. Donc, ma vie ne m'appartient pas. Elle lui appartient à lui. Ça, quand on a ça dans la perspective, c'est que ça nous place de bonne façon avec Dieu. On lui appartient. Au baptême, on s'est consacré à lui de façon absolue. Rappelez-vous, Et chaque fois que je baptise quelqu'un, j'appelle à cette personne-là ce que le ministre qui m'a baptisé m'a rappelé. Luc 14, je pense à vous à peine qu'on passe là. Luc 14, ça fait partie de ce que je vous dis encore ce matin. Si quelqu'un vient à moi, c'est le Christ qui parle. Luc 14, verset 26. Sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Dans le fond, quand on a accepté l'alliance avec Dieu dans les eaux du baptême, c'est qu'on a dit à Dieu, « Fais de ma vie ce que tu veux. Tu es maintenant le premier dans ma vie. Aide-moi à ce que ça reste comme ça. À ce qu'il n'y ait rien d'autre qui vienne interférer entre moi et toi. Et ce que tu vas me montrer de faire, je vais le faire, mais avec ton aide. » Et après ça, avec son aide, on a persévéré dans la confiance et dans l'obéissance. Hébreux, chapitre 10. Hébreux, chapitre 10. Versets 35 à 39. Hébreux 10, 35 à 39. N'abandonnez donc pas votre assurance. Il ne faut pas l'abandonner, cette assurance, cette confiance-là. L'assurance qui vient avec la confiance qu'on remet à Dieu, de s'en remettre totalement à lui. Parce qu'à un moment donné, en tant qu'être humain, des fois, on est porté à détourner les yeux de Dieu puis à voir davantage les problèmes ou les difficultés. Puis, d'un certain aspect, ça se comprend, parce qu'on est humain. Et lorsque des situations nous font mal, bien, le mal, on l'a. Ça, c'est réel. Sauf que Dieu n'est pas moins réel que ça. Il est plus réel que ça. Et je dois quand même garder mes yeux sur Dieu, malgré la douleur que je peux avoir physiquement ou malgré les inconforts que les circonstances peuvent m'apporter ou les déceptions de la vie ou les désillusions ou tout ça. C'est ça la différence. Et lui va faire en sorte que je passe au travers. Il va me donner ce qu'il faut. N'abandonnez donc pas de me faire confiance et de m'obéir. Parce qu'à ce moment-là, vous n'abandonnerez pas votre assurance. Vous allez vous sentir en sécurité, quelles que soient les choses qui vous arrivent d'ici le retour de Christ. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Je comprends, cette rémunération-là, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle, puis la possibilité de guérir, d'aider, d'encourager plein d'êtres humains qui vont vivre après le retour de Christ. Et après ça, dans le jugement du grand trône blanc, de retrouver nos ancêtres, ceux qu'on n'a jamais connus, et de leur montrer le chemin de la vie éternelle à leur tour. Les guérir, les encourager, les prendre dans nos bras. D'avoir l'occasion même, je pensais à ça cette semaine, de demander pardon à ceux à qui on a fait du tort et qui sont décédés, à qui on n'a pas pu demander pardon. On pourra, dans ce temps-là, reprendre le fil de l'histoire avec chacune de ces personnes-là et demander pardon pour les choses qu'on a faites qui étaient contraires à eux. Et là, on va établir des bases extraordinaires d'amour, de lien dans la famille de Dieu. C'est ça. Ils vont être appelés dans la famille des autres aussi. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance. Et c'est là qu'est notre travail de persévérer, là. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et dans notre cas, cette phrase-là s'applique beaucoup, beaucoup plus qu'au moment de l'apôtre Paul, au moment de la vie de l'apôtre Paul. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Voyez-vous, le seul qui peut nous séparer de Dieu ou nous éloigner de Dieu, c'est nous-mêmes. Si on ne continue pas de lui faire confiance puis de travailler à lui obéir avec sa force, à vivre selon l'esprit de la fête des pains sans levain. On est la seule personne qui peut nous détacher de Dieu, nous éloigner de lui. Si on crie à lui, quelles que soient les circonstances, Dieu va prendre soin. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. C'est ça, la confiance en Dieu, puis continuer d'obéir, vivre selon la fête des pains sans levain tout au long de notre vie, quelles que soient les circonstances. Faire confiance à Dieu, je reviens là-dessus, continuer à nous purifier. Vous irez voir dans Apocalypse 22, à la fin de l'histoire, Dieu dit que ceux qui se purifient continuent à se purifier jusqu'au retour de Christ. Vivent dans l'esprit de la fête des pains sans levain. et poursuivre, quelles que soient les circonstances, en ayant les yeux sur le Christ jusqu'à son retour. Vous savez, dernièrement, il y a eu une tragédie dans l'Église. C'est vraiment sérieux, c'est grave ce qui est arrivé. Un jeune homme baptisé dans l'Église en Ontario. Je vous ai fait l'annonce dernièrement ici, Travis Goddard, 23 ans, un terrible accident de la circulation, il est décédé. Un membre baptisé d'Église, un jeune homme qui était un exemple dans l'Église, qui avait une façon de faire qui était vraiment remarquable, il y avait des liens, il servait dans l'Église, c'était super. Pourquoi est-ce que Travis Goddard est décédé? Je pense que vous ne pouvez pas répondre à la question, moi non plus. Je ne peux pas dire. Est-ce que Dieu a été surpris parce qu'il s'est arrivé ces circonstances-là extrêmes, disons? Absolument pas. Dieu est sur son trône. Des fois, je me rappelle, M. Appartient disait, parfois les gens, devant des circonstances difficiles, demandent où était Dieu quand telle chose est arrivée. M. Appartient disait, oubliez pas, Dieu est sur son trône. Et il est toujours en charge. Et si Dieu a permis que ça arrive, Dieu a ses raisons. On connaîtra un jour. Moi, ce qui m'est passé par l'esprit par rapport à ce jeune homme-là, baptisé, converti, un bel exemple dans l'Église, peut-être que son cheminement spirituel était complet. Vous savez, c'est juste Dieu qui peut voir au cœur. Et ça ne va pas avec la question d'âge ni de nombre d'années dans l'Église. On a tous un chemin à faire et à des vitesses différentes. Et peut-être que ce jeune homme-là avait fait le chemin nécessaire pour se qualifier. Et que Dieu a dit, bon, je vais lui permettre de s'endormir et il sera debout à la résurrection pour occuper le poste qu'il va occuper sous le Christ. Possiblement. Je me plais à le voir comme ça. Mais ce qui est fascinant, ce qui est encourageant dans ce sens-là aussi, dans ce cas-là, je connais les parents, j'ai vu leur réaction. Ça n'a rien changé dans leur confiance à Dieu. Absolument pas. Au contraire. Alors, c'est un bel exemple. Ça n'a pas changé non plus leur confiance en Dieu pour obéir à Dieu puis continuer à soutenir l'œuvre. Absolument pas. Vous savez, ça a été un coup dur dans le cheminement vers le royaume, mais leur but reste le même, je le sais, je le vois. Et leur engagement reste le même, je le sais, je le vois. Et Dieu va les amener à terme. Dieu va les amener au but qu'ils vont atteindre. Bien sûr, ils ont le cœur brisé, mais Dieu va guérir graduellement les blessures et Dieu va les amener à terme. De toute façon, c'est la seule façon pour qu'ils retrouvent leur fils aussi. Parce que l'espoir de la résurrection, c'est la chose la plus merveilleuse dans ces circonstances-là aussi. On va retrouver les nôtres. C'est le but qui compte. On est dans une petite période de temps éphémère. Ça fait mal à certains moments donnés, c'est difficile, oui, mais il faut tenir. Tenez bon. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin aura la vie éternelle. C'est ça. Et c'est pour ça que Dieu permet qu'on soit une famille, qu'on s'encourage les uns les autres, comme on fait aussi. Et on a besoin de le faire, puis on aura besoin de le faire encore plus à mesure que les circonstances pourront devenir plus difficiles. C'est pour ça que Dieu a fait qu'on est une famille maintenant. C'est pour ça qu'il dit, n'abandonnez pas votre assemblée. C'est pour ça qu'il dit, exhortez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres. Il y a une dynamique qui se fait dans la famille de Dieu, qu'on se supporte, on s'aide. Dieu est juste, Dieu est tout-puissant, Dieu est en parfait contrôle. Dieu accomplit son plan tel que prévu et Dieu s'occupe personnellement de chacun et de chacune de ceux et celles qu'il a appelés et avec qui il a signé l'engagement du baptême pour l'emmener à terme. Rappelez-vous Job. C'est un cas extrême aussi, le cas de Job. On s'y reportera pas, mais vous avez déjà lu plusieurs fois son histoire. Job a perdu tous ses enfants. Job a perdu tous ses enfants. Job avait une belle famille, Job était riche, Job était en santé, il avait la reconnaissance des autres, et ainsi de suite. Job perd tous ses enfants. Pourtant, la Bible dit, Job, c'était un homme juste selon Dieu, donc il pratiquait la justice de Dieu, il obéissait à Dieu, il avait confiance en Dieu. Mais lui non plus, il n'a pas perdu confiance en Dieu. Il n'a pas cessé de lui obéir non plus. Pourtant, ça a fait mal un bout de temps, puis ça a fait mal beaucoup à un moment donné. Il a perdu tous ses enfants. Il ne comprenait pas pourquoi. Après ça, il a perdu tous ses avoirs. Après ça, comme si ce n'était pas assez, il a perdu sa santé. C'est quand on voit la description de Job dans l'état où il était, que son corps au complet était comme croûté et que ça le faisait mal, que ça le démangeait, qu'il devait prendre de la cendre avec un morceau de bois pour se frotter, que ça lui donnait un petit peu de soulagement. Ses amis s'éloignaient de lui. C'est terrible. On n'a jamais passé par des choses comme ça. Job ne comprenait pas ce qui arrivait. Mais il n'a pas remis Dieu en question. Il ne comprenait pas. Il a demandé pourquoi, c'est normal. On peut demander à Dieu pourquoi telle chose nous arrive. Ou on peut demander à Dieu, si j'ai de quoi comprendre, aide-moi à le comprendre. Si tu permets que ça arrive, pour que j'apprenne à mieux te servir, montre-le-moi. Mais dans tout ça, Père, fais que ta volonté se fasse, pas la mienne. Mais aide-moi à aller au bout. Et Dieu va vous répondre. Pourquoi je suis certain de ça? Parce que c'est marqué dans la Bible. Que Dieu ne se détourne pas de celui qui s'attache à lui, qui lui demande de faire sa volonté. Job n'a pas accusé Dieu, absolument pas. Absolument pas. Il a demandé des pourquoi. Mais rappelez-vous la réponse divine encore là. C'est un peu comme Dieu a fait avec Abraham. Dieu n'a pas répondu à ses questions. Dieu n'a pas répondu du tout au pourquoi de Job. Job avait certaines choses à changer, c'est sûr, il n'était pas un homme parfait, il pratiquait la justice, mais on sait qu'il était juste à ses propres yeux, il a appris ces choses-là, mais au-delà de ça, c'est pas ça l'essentiel. C'est que Dieu, en lui répondant, n'a pas répondu au pourquoi de Job. Il a montré sa grandeur. Il a dit, où est-ce que tu étais quand j'ai créé l'univers? Où est-ce que tu étais quand j'ai créé Orion, puis les planètes, puis toutes ces choses-là? Où est-ce que tu étais quand j'ai créé les crocodiles, les hippopotames, tous ces beaux animaux? Puis il a donné toute une liste. Quand le tonnerre tonne, quand j'ai tracé la ligne pour que le tonnerre frappe et que l'éclair descende, est-ce que tu peux m'expliquer toutes ces choses-là? À un moment donné, Job a vu que là, il montrait la grandeur de Dieu. Et Job a dit à la fin, là, je vois ta grandeur, je me repens. De ce que je pensais. Donc, Job n'a pas remis en question, Job n'a pas accusé Dieu. Et Dieu lui a répondu en montrant quelque chose de plus grand. Il a ouvert ses perspectives. Et après, qu'est-ce qui est arrivé? Job a continué à lui faire confiance et à lui obéir, et Dieu l'a béni. Encore plus qu'il était béni avant. Encore plus qu'il était béni avant. Ça, c'est fantastique à voir. Et vous savez, on a tous certaines difficultés à passer à travers. Je ne vous apprends rien. On a tous des difficultés, on a tous des épreuves. Et Dieu le permet. Dieu le permet. Ça, il faut en être conscient. Dieu le permet. Mais dans ça, c'est que Dieu nous façonne. Il est en train de nous apprendre des choses. Il est en train de nous apprendre des choses, puis il est en train de nous apprendre à nous épauler également, à prier les uns pour les autres. Et je me demande des fois s'il n'y a pas certaines épreuves qui arrivent à quelqu'un qui n'est pas un test pour les autres autour, pour voir si les autres vont vraiment l'encourager aussi ou le soutenir. Vous savez, Dieu accomplit plusieurs choses dans différentes circonstances. Et Dieu travaille avec tous ces éléments-là en même temps. Il est puissant, le Dieu qu'on sert. Dieu permet les épreuves, les difficultés pour transformer notre caractère, pour qu'on devienne comme lui, qu'on devienne comme lui. Le Christ a été notre exemple en toutes choses, puis pourtant la Bible dit, lui qui était Dieu, il n'était pas son Père dans ce temps-là, mais lui qui était un être divin avec l'autre être divin, formant la divinité depuis toute éternité, lui qui s'est dépouillé de ses honneurs, s'est dépouillé de sa gloire, de sa puissance qui est venue dans la chair humaine, la Bible dit, il a appris par les choses qu'il a souffertes. Le Christ, il a appris par les choses qu'il a souffertes. Et une des dimensions de ça, c'est que le Christ, en tant qu'être spirituel qui a toujours vécu, n'avait jamais vécu dans la chair humaine. Et il a appris dans la chair humaine qu'est-ce que c'est que d'être un être humain. Qu'est-ce que c'est que d'avoir faim? Qu'est-ce que c'est que d'avoir soif? Qu'est-ce que c'est que d'être épuisé? Qu'est-ce que c'est que d'être même rejeté, d'être méprisé, d'être critiqué, d'être abandonné par les siens? Même d'être torturé puis mis à mort, finalement. Alors, par ces choses-là, il a appris qu'est-ce que c'est que de vivre dans la chair humaine. C'est pour ça qu'il est notre souverain sacrificateur et qu'il peut intercéder pour nous. Il a vécu dans la chair humaine et il a appris ces choses-là. Et en tant que celui qui intercède pour nous, c'est notre avocat auprès de Dieu, lui peut dire au Père, « Père, ce que lui ou elle a à vivre, là, c'est tellement difficile pour telle et telle raison. J'ai déjà vécu ça, j'ai déjà vu ça à côté, j'étais avec eux. » Il peut expliquer ces choses-là au Père pour que Dieu vous bénisse. C'est pour ça que le Christ a souffert ces choses-là. Alors, nous, comme notre Seigneur a souffert, nous aussi, on doit passer par certaines souffrances pour apprendre des choses. C'est pas parce que Dieu nous aime pas, au contraire. 1 Pierre, chapitre 4. Parce qu'il est en train de préparer quelque chose de spécial avec nous. 1 Pierre, chapitre 4. Versets 12 et 13. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. C'est pas une question de masochiste ici, puis de dire, ah, c'est merveilleux de souffrir. Non, moi, je veux pas souffrir. Vous non plus. Sauf qu'on n'a pas le choix, c'est la condition humaine. Et il dit ici, considérez comme étant quelque chose qui peut vous aider d'avoir à passer par certaines souffrances. Vous pouvez compter sur l'aide de Dieu pour passer à travers. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. On sera prêt, on sera devenu comme lui, on aura considéré les autres, on aura respecté notre engagement, comme lui a respecté son engagement de venir mourir pour nous autres. N'oubliez pas ça, il avait pris un engagement par rapport à son Père. Il est venu ici, il l'a respecté jusqu'au bout, parfaitement. Nous autres, on a, dans son sang, signé l'engagement de marcher dans ses voies. On n'est pas capable, mais on demande son aide. Et il sait qu'on en a besoin. Et c'est seulement par lui, en nous, qu'on peut vaincre. Verset 19. Ainsi donc, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Confiance et obéissance. Confiance et obéissance. On est actuellement dans le processus de transformation. Notre caractère est en train d'être transformé à travers les choses qu'on vit pour développer le solide caractère du Christ dans toutes les circonstances. Des fois, c'est des circonstances faciles, des fois, c'est des circonstances agréables. Et là aussi, il y a d'autres genres de tests dans les circonstances faciles aussi, ou des fois dans des circonstances plus adverses. En préparant le sermon, je me suis rappelé des souvenirs qui, moi, je trouvais touchants. Quand j'étais petit bonhomme, dans la ville où j'ai grandi, c'est-à-dire on demeurait à la campagne, nous, mais il y avait encore un forgeron à l'époque, un maréchal Ferrand, parce qu'il y avait beaucoup de chevaux. Et je me rappelle du quand on allait là pour faire ferrer les chevaux à cet endroit-là, il y avait des bruits spéciaux, il y avait des odeurs spéciales. Les chevaux arrivaient, il y avait le feu pour mettre le métal, il y avait le soufflet pour faire rougir le feu. C'était du charbon, si je me rappelle bien, qu'on mettait là-dessus. Et là, il y avait une espèce de pompe avec de l'air qui faisait... ça venait transparent, comme un rond de poêle aujourd'hui, si vous voulez, quand on le met au maximum. Là. Ça venait comme ça. Et là, ils mettaient le métal dans le feu. Et après que le métal était rendu rouge, là, transparent, presque transparent, là, ils le prenaient, puis ils le mettaient sur l'enclume, puis ils prenaient un marteau. Et puis, oh monsieur, ça frappait. Ces hommes-là étaient solides. Des fois, il y avait des hommes qui n'étaient pas gros, mais il y avait du bras. Ils mettaient le métal là, puis là, il fallait qu'ils façonnent le fer. Alors, ils frappaient là-dessus. Tant qu'ils lui donnaient pas la forme qu'il fallait pour installer le fer sur le sabot du cheval, selon la grosseur du sabot qu'il y avait là. Parce que les chevaux n'ont pas tous la même dimension de sabot. Alors, il fallait qu'il soit un artiste dans ce sens-là pour fabriquer son fer. Et ça sentait le métal brûlé en même temps aussi. Ça sentait les chevaux. Il y avait le bruit sur l'enclume. Et il frappait là-dessus, puis il donnait la forme tant que c'était pas la forme qu'il désirait. Mais là, c'était pas fini. Il y avait une autre épreuve pour le métal. C'est nous autres, le métal. C'est nous autres, le métal. On passe par les épreuves, la fournaise de l'épreuve que Dieu appelle. Là, il prenait le fer avec des pinces, et là, il plongeait dans l'eau glacée ou dans l'eau froide. Paf! Un contraste terrible. Et ça donnait au métal une résistance puis une durabilité. Puis là, ça figeait le métal dans sa forme qu'il devait garder pour tout le temps ensuite. Et là, il fixait le fer au pied du cheval. Fantastique. Alors, je me suis rappelé ces événements-là que j'ai vécu, que je trouvais savoureux. C'était unique, l'atmosphère qu'il y avait là aussi. Alors, on est ce métal-là, que Dieu travaille, parce qu'il est en train de nous donner une forme. Et il nous encourage de toutes sortes de façons, mais en même temps, il permet des épreuves, parce qu'il doit nous façonner pour qu'on soit prêt pour les fonctions que lui a à nous donner. N'oubliez pas, là, il y a quelque chose au bout. C'est pas les épreuves pour les épreuves. C'est les épreuves en préparation des fonctions qu'il va nous donner pour qu'on soit capable d'être assez malléable, d'avoir cette souplesse, d'avoir cet amour que lui a, d'avoir cette miséricorde que lui a, pour travailler avec les gens pour les encourager, pour les guérir, pour les diriger, pour les administrer dans le monde à venir. C'est fantastique. Ça, c'est le but. Dieu a testé les Israélites, oui, mais Dieu nous teste aussi. Dieu a testé les Israélites, mais Dieu nous teste. Et c'est une importante leçon de la fête des pains sans levain. Deutéronome chapitre 8, s'il vous plaît. Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8, verset 1. Regardez ce que Dieu a dit aux Israélites, puis ça s'applique à nous. Verset 1. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. L'obéissance qui vient avec la confiance, afin que vous viviez, pas pour qu'il soit malheureux, non, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Et dans le texte original, c'est de mettre en pratique soigneusement. Il apparaît pas dans la Louis II, mais dans le texte original, c'est vous mettrez en pratique soigneusement. Ben oui, si ça devient important pour nous, c'est pas quelque chose de secondaire, c'est qu'on y fait bien attention. Et après ça, on voit au verset 2 la raison des épreuves. Ça, c'est encourageant aussi. C'est dans le même sens que je vous explique. Verset 2. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. » Là, il parlait aux Israélites, bien sûr. « Afin de t'humilier. » Pourquoi ces tests-là? « Afin de t'humilier. » Humilier, c'est pas juste de... C'est pas dans le sens de rabaisser. Mais afin de te faire réaliser que tout nous vient de Dieu. Qu'on se sente petit à côté du grand Dieu, d'être humble face à lui, de compter sur lui, de lui faire confiance et de lui obéir. Ça revient encore à ça. De t'humilier et de t'éprouver, voyez-vous. Pourquoi? Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Et si vous gardez les commandements de Dieu dans des temps heureux comme dans des temps difficiles, le métal est en train de se formé comme il doit être pour les fonctions que vous allez avoir. Et vous êtes en train de développer ce caractère de Dieu. Verset 3, « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, que n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Et vous savez, on pourrait en parler, puis on en a parlé un peu hier soir, la soirée mémorable. Dieu nous délivre parfois de façon inimaginable, tout à fait inattendue. Écoutez, est-ce que les Israélites, quand ils ont eu la manne, combien de fois avant ça, ils avaient eu la manne comme ça? Combien de fois ils avaient vu descendre du ciel un produit blanc un peu, qui ressemble un peu à de la neige, qui avait bon goût et qui contenait en lui tous les éléments essentiels pour être capable de continuer à vivre, pour fournir ce que le corps a besoin. Il n'avait jamais vu ça. C'était inattendu. C'est pour ça que je vous dis que Dieu intervient dans vos vies comme dans la mienne de cette façon-là, souvent de façon inattendue, inimaginable avant. Écoutez, quand il a fait sortir l'eau du rocher le plus dur, qu'il dit, c'était un rocher dur, là, et l'eau a commencé à sortir. Ça aussi, c'est une impossibilité pour nous. Mais lui, c'est pas une impossibilité. Quand il va protéger son peuple au temps de la faim, ça sera pas une impossibilité non plus. Où qu'on soit, si on est fidèle, il va s'arranger pour qu'on arrive là où on doit arriver, au bon moment, et il va nous couvrir de son aile, quelles que soient les armées qui seront lancées après. Certains peuvent dire, oui, mais on va manger quoi? Ah! Je sais pas. Je peux pas vous répondre. Je ne peux pas vous répondre, mais je sais qu'on va manger, parce que c'est marqué « du pain et de l'eau leur seront donnés ». C'est une expression générale pour dire que la nourriture sera donnée. Est-ce que ce sera encore la manne? Je ne peux pas vous dire. Peut-être, mais je ne peux pas vous dire. Ce sera peut-être encore de quoi complètement différent qu'on n'a même pas pu imaginer avant. C'est ça. Et Dieu travaille de cette façon-là. Écoutez, quand les trois amis de Daniel ont été jetés dans la fournaise chauffée 7 fois, là, vous savez ce qui est arrivé? Ils ont été protégés divinement par Dieu. Ça non plus, c'était inédit. Et ils ont dit, nous, on a confiance en notre Dieu, puis on obéit notre Dieu, on n'observera pas, on n'adorera pas le faux Dieu que le roi veut nous faire adorer. S'il fallait payer de leur vie, le Christ dit tantôt, hein, faut pas que votre père, votre mère, vos enfants, rien, même votre vie, vienne entre vous et Dieu. ils étaient prêts même à donner leur vie si Dieu permettait que ça soit ainsi. Et ils ont fait confiance, ils ont obéi, mais regardez ce que Dieu a fait. C'est la même chose que nous devons faire. Ils sont sortis de là. La Bible dit que leurs vêtements ne sentaient même pas le feu. Et ceux qui les ont jetés dans la fournaise sont morts, tellement la fournaise était chauffée. C'est fort. Délivrance impossible à prévoir. Verset 4. Il parle aux anciens Israélites. Il parle à nous ici. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Comment est-ce qu'on sera vêtu lorsqu'on sera dans un lieu de sécurité? Comment est-ce qu'on sera nourri? Dieu va s'en occuper. Pendant 40 ans, les vêtements ne se sont pas usés. Les pieds n'ont pas enflé. Les chaussures ont été bonnes pour 40 ans. Ça, c'est des chaussures garanties, hein? Là, on parle d'une garantie réelle, là, qui dure. Alors, c'est fantastique, parce que ça non plus, il n'avait jamais vécu cette chose-là. C'est pour ça que je vous dis que Dieu agit de façon parfois très surprenante, complètement inattendue, et il va le faire encore. Il va le faire encore. C'est marqué dans Psaume 37, verset 25, vous pourrez aller voir, Psaume 37, verset 25, que il a jamais vu le juste abandonné et ses enfants mendiant leur pain. C'est une promesse. C'est pas présenté comme une promesse, mais ça en est une. Alors, si vous pratiquez la justice comme Job, comme les autres serviteurs de Dieu, comme M. Appartient, comme les autres qui nous ont donné l'exemple, la même promesse va s'appliquer. Vous n'allez pas manquer. Il dit, le juste n'est pas abandonné par Dieu. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Si j'ai ça en priorité, Dieu va s'occuper du reste. Il dit d'ailleurs dans cette même séquence de la Bible-là, Dieu va pourvoir à vos besoins. Dieu va pourvoir à vos besoins. Mais faites ce que vous avez à faire. 1 Samuel chapitre 17. David avait très bien compris ça. C'est fascinant parce que Dieu nous prépare souvent par des expériences qu'il nous donne de vivre. On ne comprend pas nécessairement sur le champ où ça va nous mener, mais on voit plus tard dans le temps ce qui est arrivé à David ici. David avait compris qu'il faut faire confiance à Dieu et lui obéir. Et vous savez, quand il gardait les moutons de son père, il était à l'extérieur, il admirait la création, il a écrit des psaumes superbes qui font plaisir à lire. Et on voit que David avait à cœur d'obéir à Dieu. Il dit « Combien j'aime ta loi! » On en a parlé hier soir encore. 1 Samuel 17 et le verset 37. Ça, c'est le contexte où Goliath défiait toute l'armée d'Israël. Le petit David, lui, est allé là-bas et il avait cette confiance en Dieu parce qu'il avait fait des expériences avec Dieu. Il avait cette confiance en Dieu. Le même Dieu que je sers, c'est lui qui m'a aidé dans le passé. Il va m'aider encore si je fais ce que j'ai à faire. Regardez ce qu'il dit au verset 37. David dit, « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Il me délivrera de la main de ce Philistin. » Alors, quand David avait combattu contre les ours puis qu'il avait venu à bout de tuer certains lions qu'il avait à l'époque dans cette région, réaliser que c'est des expériences plus petites que Dieu lui a permis de réaliser parce qu'il y avait d'autres choses qui s'en venaient. Il a vécu cette expérience-là, puis quand il est arrivé devant Goliath, il dit, « Ben, je n'ai vu des difficiles, puis lui, il est encore plus gros que les lions que j'ai tués, mais les lions que j'ai tués, c'est pas par ma force. Puis les ours que j'ai tués, c'est pas par ma force. J'ai appris quelque chose, j'ai appris que c'est par le Dieu Tout-Puissant que je peux faire des choses qui sont au-delà des forces humaines. Alors, le même Dieu que je servais alors va m'aider si je me présente devant Goliath. » Et vous savez le restant de l'histoire. Il savait par expérience d'où lui venait sa force et d'où lui viendrait la délivrance. Les épreuves plus petites l'avaient préparé. Les solutions ou les réponses nous arrivent parfois de façon surprenante. Puis je ne sais pas si c'est à vous, ça vous est arrivé, probablement. Mais des fois, les réponses à des questions ou des solutions nous viennent quand on est après prier. Puis des fois, ça nous arrive au moment où on est en train de parler à Dieu, mais pas de cette chose-là. On est en train de lui expliquer d'autres choses ou de l'adorer ou de le louer, le remercier pour différentes choses. Puis un problème qu'on y avait soumis ou un problème qu'on a, la réponse arrive dans notre esprit. Ça vient d'où? C'est pas ma force. C'est lui qui l'a mis là. Parce qu'il est le Tout-Puissant. La mer s'est ouverte La gueule des lions a été fermée quand ça a été le temps. Quand vous pourrez aller voir, c'est fascinant, quand Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, les lions, ils avaient la bouche fermée. Ça aussi, c'est impensable. Puis quand vous regardez le même contexte, ceux qui l'avaient accusé, Dieu dit « à moi la vengeance », ceux qui l'avaient accusé ont été jetés dans la même fosse avec les mêmes lions qui avaient la bouche fermée. Puis la Bible dit qu'ils n'étaient pas rendus au fond, que leurs os craquaient déjà, que les lions les ont dévorés. Les mêmes lions, là. Alors, on voit la puissance de Dieu qui fait des choses vraiment surprenantes. Dieu ne nous abandonne jamais si nous ne l'abandonnons pas. Soit qu'il nous donne la force de traverser les difficultés ou les épreuves, ou soit qu'il nous délivre totalement de ces épreuves-là. La Bible dit aussi que le juste tombe sept fois, mais sept fois il se relève. Lorsqu'il demande pardon à Dieu sincèrement, qu'il lui demande la force d'éliminer les faiblesses qu'il y a encore en lui. C'est encore une promesse. Et c'est encore quelque chose qui peut se réaliser seulement par la puissance de Dieu en nous. Vous savez, quand on regarde la Bible, quand on regarde l'histoire de Paul, par exemple, ou de d'autres serviteurs de Dieu, on se rend compte qu'on peut être spirituellement fort, même spirituellement très fort, même quand nous sommes physiquement faibles. On le sait par le jeûne. Quand on jeûne, on est physiquement faible, et à un moment donné, on réalise que Dieu nous donne de la force. Mais on peut être spirituellement très fort, même quand on est physiquement faible, quand on est physiquement amoindri ou vieilli. Plusieurs d'entre nous avancent en âge et n'ont plus les mêmes capacités qu'ils avaient. Mais on peut être fort spirituellement pareil, la même chose. Même si on est limité, même si on est pauvre, même si certains sont malades, même si certains dans l'Église sont handicapés, ils peuvent être très forts spirituellement. Et moi, j'ai vu souvent des gens dans l'Église, des petites gens, malades, vieillis, avec peu de moyens, avoir une solidité spirituelle surprenante. Mais c'est ça, parce que le vrai but de leur vie, ils l'avaient trouvé. Et ça ne changeait pas. C'est pas les circonstances qui leur faisaient penser autrement. Mais ils s'en remettaient à Dieu qui les aidait à passer à travers. Et Dieu va faire la même chose pour chacun de nous, parce qu'il y a des choses plus difficiles qui vont venir et il va falloir être prêt à passer à travers ces choses-là. Il faut pas se laisser détourner de notre but, soit par des gens, soit par des circonstances difficiles, soit par des doutes, soit par des pertes. Absolument pas. Apocalypse 3, s'il vous plaît. Apocalypse, chapitre 3. Un passage qui convient de citer maintenant, c'est tellement encourageant. Il faut garder, nous, les yeux sur le Christ. Les Israélites auraient dû se rappeler la colonne de feu et la colonne de nuée. Ils auraient dû garder les yeux sur ça, sur le Christ qui les suivait, qui les guidait, qui voulait les conduire en terre promise, d'ailleurs. C'est lui qui est le chef suprême de l'Église. Apocalypse 3, versets 1 et 2, regardez ce qu'il dit aux Philadelphiens. Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Et quand il fermera la porte pour que nous cessions d'annoncer l'Évangile, quand le temps de notre mission sera terminé, il n'y aura plus de mission possible à accomplir. Les deux témoins, à ce moment-là, vont finir le travail. Et regardez le verset 10 et 11, qu'est-ce qu'il nous dit? À vous et à moi qui observons avec reconnaissance la fête des pains sans levain, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai, je te protégerai aussi à l'heure de la tentation ou à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. Donc, on peut le perdre, il faut le tenir. C'est la chose la plus précieuse de notre vie. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Et c'est la rémunération qui nous attend. Vous savez, il est de plus en plus clair qu'on approche de la fin de notre société actuelle. Ça devient de plus en plus clair. Il y a des circonstances plus bouleversantes qui vont se présenter et qu'on voit se dessiner à l'horizon. Mais sachez que le Dieu de fidélité parfaite va donner à chacun de ses serviteurs zélés ce qu'il faut pour réussir à atteindre le but éternel. Ça, on peut en être certain comme le lever du soleil chaque jour. Dieu est un Dieu de promesses infaillibles. C'est pour ça que je vous dis en terminant, vivons cette fête des pains sans levain comme jamais auparavant. De tout cœur, avec reconnaissance, en nous appliquant à continuer de nous purifier. Un dernier verset dans 2 Chroniques 16, un verset tellement encourageant. 2 Chroniques, chapitre 16. 2 Chroniques, chapitre 16. Notre Père nous aime, c'est un bon papa. Et vous savez quoi? Il cherche les occasions de nous délivrer de nos problèmes, de nos difficultés. Il cherche les occasions de nous fortifier. Il cherche les occasions de nous encourager. Continuez de manifester confiance et obéissance envers lui. Et voyez comment il va vous bénir. C'est une promesse. Et je termine le sermon de ce premier jour des pains sans levain avec cette promesse pour qu'on continue en gardant le cap. 2 Chroniques 16 et le verset 9. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre. Pourquoi? Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Poursuivons notre route. Bonne continuation de la fête des pains sans levain.